Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Si vous êtes à la maison, nous sommes mercredi 17 juin 2015. Bienvenue donc à cette émission. Le Grand Dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur le réchauffement climatique. Une grande rencontre est prévue cette année en France pour parler de la question et l'Union européenne veut donc communiquer sur la question pour un changement de comportement et c'est donc tout le sens donc donné à cette émission qui est donc dans la mouvance donc de l'Union européenne qui veut communiquer sur le fait. Nous sommes avec trois invités, Mambi Fofana, coordinateur technique du groupe de partenaires techniques et financiers sur l'environnement et le changement climatique. Deuxième invité, Drissa Gana, coordinateur du bureau de Sévaré de Sahel Eco, et Abdoulaye Bineguindo, coordinateur régional du projet intégré du Delta intérieur du Niger. Je suis Famoussa Sidibé. Peting Diarra est à la mise en onde. La France présidera donc cette année la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP21. Après l'échec de la conférence de Copenhague sur le climat en 2009, dont l'objectif commun visait à contenir le réchauffement climatique, c'est une échéance cruciale puisqu'elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays. Cet accord devra être universel, durable et aura force de loi. L'idée est de mener à la neutralité carbone avant la fin du siècle, ainsi qu'au respect de l'objectif des 2 degrés, donc, c'est-à-dire le maintien du réchauffement climatique global des températures sous la barre des plus 2 degrés. Alors, cette première question, le thème même de cette émission, en quoi suis-je concerné par le réchauffement climatique? Question que tous les Maliens lambda doivent bien pouvoir se poser. Monsieur Fofana, Mambi Fofana, vous êtes coordinateur donc des partenaires techniques et financiers, environnement et réchauffement climatique.
Merci. Bon, en fait, je pense que nous sommes des citoyens de ce monde. Et en tant que citoyens de ce monde, nous sommes tous concernés par les questions climatiques, qui ne sont plus des mythes, mais des réalités évidentes et qui affectent nos vies de façon quotidienne. Ça affecte les systèmes humains, ça affecte les systèmes écologiques et les systèmes économiques. Des questions d'évidence ou des aspects d'évidence, c'est que présentement nous savons que il y a de grandes perturbations au niveau des paramètres climatiques. Le paramètre climatique le plus important à être affecté par les changements climatiques pour ce qui nous concerne en tant que pays sahélien, c'est d'abord la pluviométrie annuelle et sa répartition dans l'année. Depuis, en fait, les 20 dernières années, la pluviométrie moyenne annuelle a diminué d'au moins 20% au Mali. Et il y a l'Isiote, c'est-à-dire la bande de points ayant la même pluviométrie moyenne annuelle, la bande 1200 a disparu. C'était la bande qui concernait les cercles de Sikasso et de Bougouni. Ça a disparu complètement. Donc, il y a eu, en fait, il y a eu une diminution des pluviométries moyennes annuelles au cours de ces 20 dernières années, mais aussi les températures. Nous savons que les températures n'ont pas beaucoup changé quand il s'agit des moyennes, parce que c'est juste 0,2% de changement, mais quand même, il y a des poches de grandes températures maintenant que nous sentons. Et aussi, les systèmes économiques tels que les systèmes agronomiques sont fortement perturbés à cause du climat. Les terres se dégradent alors que la terre est le support physique et nourricier des productions agricoles. Donc, non seulement les rendements baissent à l'exclusion du maïs et du riz, où présentement on essaie de travailler seulement sur des variétés hybrides, mais à l'exclusion de ces deux cultures, toutes les autres cultures connaissent une baisse notable de rendement. Et qui parle de baisse de rendement, parle aussi de baisse de production. Alors qu'au même moment, en fait, la démographie est galopante.
Donc
parce que nous observons un taux de croissance de 3,6% et qui dépasse de loin les accroissements annuels en termes de production.
D'accord. Alors ça, c'est des termes un peu plus techniques. Nous allons voir avec les hommes du terrain. Ils sont deux autour de moi dans ce studio. Alors, les observateurs, les techniciens que vous êtes, estimez que le réchauffement climatique, ça concerne beaucoup plus les pays industrialisés. Aujourd'hui, qu'est-ce que le quotidien d'un bûcheron peut avoir comme impact sur le réchauffement climatique, Monsieur Gana, Drissa Gana.
Merci bien. En fait, le changement climatique, c'est vraiment une réalité aujourd'hui. C'est, beaucoup pensent que c'est une fatalité, mais au niveau des communautés que nous rencontrons, nous sommes dans la dynamique de les sensibiliser sur la véracité de ces changements climatiques. Aujourd'hui, c'est vraiment une réalité et ça se manifeste de façon très concrète. Avant, les gens, au mois de mai, juin, déjà, les semis étaient terminés. Et aujourd'hui, nous sommes au 17 juin. Vous allez faire le tour du Mali de façon concrète. Vous allez trouver que moins de 10% du territoire est ensemencé.
Donc, d'abord, un impact sur la pluviométrie.
Direct. Le retard de pluie en début d'hivernage. Ça, c'est l'impact direct. Le second impact, ça, c'est l'arrêt précoce des pluies. Alors que nous avons encore des semences tardives. On est habitué à faire des semences tardives de 3-4 mois. Le maïs, le mil, au niveau du Sénot, on sème vers juin pour les récolter vers octobre-novembre. Et aujourd'hui, à partir du 22 septembre, il n'y a plus de pluie de façon concrète.
Donc, au-delà de l'arrivée tardive, il y a également l'arrêt précoce des pluies.
Donc, la période hivernale s'est raccourcie alors que nous avons encore les mêmes semences de longue durée.
Qu'est-ce qui provoque tout ça?
C'est le changement climatique. En fait, vous avez tantôt dit que les gens pensent que ça n'affecte que les pays industrialisés. Ils sont les causes de pollution qui engendrent les changements climatiques. Mais les pays du Sahel subissent les conséquences les plus graves.
Alors, en quoi leur action aggrave le réchauffement climatique?
Au niveau du Sahel. En fait, notre contribution, c'est moindre sur le plan mondial. Mais ça se manifeste du fait que aujourd'hui nous contribuons à la dégradation du couvert végétal. Et qui parle de dégradation du couvert végétal parle de contribution à l'effet du changement climatique. Donc toutes les causes anthropiques au-delà...
Alors quand vous parlez de dégradation du couvert végétal, c'est bien la coupe du bois et
il y a la coupe
toutes
du
les
bois,
activités...
Il y a toutes les mauvaises pratiques de défrichement où on est amené à nettoyer tout le champ en début d'hivernage pour installer les cultures.
Notamment les feux de brousse.
Les feux de brousse, il y a le défrichement très mal pratiqué. Il y a autant de pratiques, les techniques culturelles, la mécanisation, qui fait qu'il faut dessoucher tous les arbres avant d'installer les cultures. Donc ça, c'est des pratiques anthropiques qui contribuent énormément aux effets du changement climatique.
D'accord. Je rappelle que vous êtes Drissa Gana, coordinateur du bureau de Sévaré, de Sahel Eco. Alors, je me tourne vers Abdoulaye Bineguindo, coordinateur régional du projet intégré du Delta intérieur du Niger. Alors, en quoi les bergers sont-ils concernés par le réchauffement climatique, Monsieur Guindo?
Merci pour cette excellente question. Les bergers, moi, comme vous l'avez dit, je suis le coordinateur du programme de développement durable du Delta intérieur du Niger. C'est un programme financé par le Royaume de Suède et le gouvernement du Mali. Et l'objectif principal, c'est d'améliorer la résilience des populations cibles, notamment les jeunes et les femmes, par rapport justement aux effets du changement climatique. Et le changement climatique par rapport aux bergers, quand on dit berger, c'est les animaux, et quand on dit animaux, c'est les fourrages. Et qui dit fourrage, il n'y a pas de fourrage s'il n'y a pas d'eau. Et une des conséquences, en tout cas, des changements climatiques, c'est la rareté des pluies, comme M. Mambi Fofana l'a dit tout de suite. Donc, s'il n'y a pas de pluie, ça veut dire qu'il n'y a pas de fourrage. S'il n'y a pas de fourrage, ça veut dire que l'animal, il aura des problèmes d'alimentation. Donc, au niveau du delta intérieur du Niger, nous tentons de voir, par rapport à tous ces effets négatifs, qu'est-ce que nous on peut apporter comme comme expertise technique auprès de ces populations qui, bien sûr, connaissent ou subissent les effets du changement climatique. Donc, on essaie de voir, quand on parle du delta intérieur du Niger, où le principal fourrage, c'est ce qu'on appelle le pourgou, Echinocléa stagnina, qui est très, très apprécié, non seulement par les animaux, mais aussi par les hommes, parce que sa croissance dépend et fonctionne de la lame d'eau. Donc, plus il y a de l'eau, plus le pourgou se développe. Il y a moins d'eau, le pourgou a des problèmes. Donc, nous essayons aujourd'hui, au niveau du delta intérieur du Niger, de sensibiliser les bergers et tous ceux qui sont dans le développement rural pour voir comment nous pouvons nous adapter justement par rapport à la réalité des pluies. C'est pourquoi nous essayons de conseiller des espèces fourragères à haute valeur nutritive, mais qui supportent les 300-400 mm de pluie. Et l'exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple le vétiver qui est connu, le vétiver nigritana, qui est une plante fourragère à haute valeur nutritive, mais d'après le constat, c'est une espèce aujourd'hui qui a aussi des problèmes. Donc il y a lieu de voir, de changer un peu les habitudes des gens par rapport aux effets du changement climatique. Les caractéristiques fondamentales, quand on dit changement climatique, c'est la rareté des pluies et l'élévation des températures. Donc il faut que les gens s'adaptent, et c'est ce travail de sensibilisation que nous faisons au niveau du delta intérieur du Niger.
D'accord. Alors, nous allons parler d'adaptation tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Tout d'abord, on parle de variabilité. Quelle définition peut-on donner à ce mot, Monsieur Fofana, Mambi Fofana?
Okay, merci. En fait, la variabilité climatique, c'est les variations des paramètres climatiques de façon saisonnière, pas sur la durée. Alors que le changement climatique, c'est des variations sur la durée. Au cours d'une même année, par exemple, il peut ne pas pleuvoir pendant un mois donné, alors qu'il aura plu le mois précédent. En ce moment, il y a une certaine variation dans la régularité des pluies. Et c'est ce qu'on appelle la variabilité climatique, c'est pas sur la durée. D'accord. Alors que les changements climatiques s'inscrivent dans l'analyse des changements climatiques lorsque on se met dans une perspective d'un horizon passé d'au moins 30 ans. Lorsque en ce moment les paramètres climatiques sont fortement perturbés, on parle de changement climatique. Sinon, la variabilité climatique, c'est juste les perturbations saisonnières qui peuvent être annuelles ou intra-annuelles, c'est-à-dire à l'intérieur, inter-annuelle ou intra-annuelle, entre deux années successives ou à l'intérieur de la même année, des poches par exemple de sécheresse ou de pluviométrie très forte. Et les paramètres climatiques qui sont concernés, c'est la pluviométrie, c'est le régime des vents. Les vents peuvent être très fortement violents. C'est aussi l'humidité relative de l'air, c'est-à-dire que l'air devient moins humide. Et c'est la végétation, le couvert végétal est extrêmement important parce que ça régule même le système hydrologique. Donc ce sont ces paramètres-là qui sont fortement perturbés, et quand ces paramètres sont fortement perturbés sur la durée, et ça affecte le climat au niveau mondial. Et c'est ce qu'on appelle changement climatique. D'accord. Alors que les variations peuvent être localisées.
D'accord. Alors, cette émission qui réfléchit donc sur le réchauffement climatique, un débat initié avec le partenariat en collaboration donc avec la délégation de l'Union européenne au Mali, en prélude donc à la grande rencontre qui doit se tenir en France très prochainement cette année sur le réchauffement climatique. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause, mais avant, nous saluons nos auditeurs qui sont à Menaka et qui écoutent cette émission avec intérêt. Merci à vous et à très bientôt.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre compte Facebook et notre page Facebook et notre compte Twitter sont là pour vous. Si vous voulez réagir à ce contenu, au contenu que nous donnons au débat d'aujourd'hui qui porte sur le réchauffement climatique, nous allons tenter avec les experts de vous donner des définitions moins techniques, de moins en moins techniques avec les experts, même si c'est difficile. Les impacts du changement climatique, c'est donc le thème de cette
deuxième partie, impact du changement climatique sur le fleuve Niger. Quels sont les impacts du changement climatique sur le Niger? Mais d'abord, vous deux, vous êtes basés à Mopti, dans la région de Mopti. Pourquoi Mopti est une zone stratégique et pourquoi vous êtes là-bas, Drissa Gana?
En fait, Mopti, c'est connu au Mali que c'est la Venise malienne. Mmh. Venise malienne, ça veut dire que c'était carrément entouré de l'eau. Mais aujourd'hui, vous partez à Mopti, vous serez désolé. Carrément, c'est la déception, c'est la désolation. Aujourd'hui, il y a au niveau de
en
Mopti...
En période de crue ou bien en période de décrue?
Aujourd'hui, là où je vous parle, il y a au niveau du fleuve Niger, il y a des parties où on peut traverser à pied. Mmh. Moi, je me rappelle ma première fois d'aller à Mopti, c'était en 1982. Et si je compare le niveau d'eau de 82 à aujourd'hui, vraiment je suis... En fait, les mots me manquent pour apprécier. C'est vraiment... Aujourd'hui, l'ensablement a carrément dominé le fleuve. Ça, c'est vraiment un constat et tout le monde est unanime là-dessus.
Donc le débit du fleuve a baissé.
A baissé. Et il y a carrément l'ensablement. Ça, c'est un constat. Notre intervention au niveau de Mopti, d'abord, Mopti, c'est l'entrée du désert.
La zone tampon, si on peut dire, relais entre
le sud et le nord du Mali. Donc, Sahel Eco étant une ONG qui a pour vocation d'aller vers la gestion rationnelle des ressources naturelles, on se dit qu'il faut attaquer le problème à la source, à freiner l'avancée du désert et l'attaquer à partir de Mopti. Voilà la justification de notre intervention au niveau de Mopti.
D'accord. Voilà. Alors, quel impact est-ce que le réchauffement climatique a sur le fleuve Niger, Abdoulaye Bine Guindo, coordinateur régional du projet intégré du Delta du Niger?
Merci, monsieur l'animateur. Comme monsieur Gana l'a dit, et beaucoup de gens ne vont pas le contredire, la région de Mopti, c'est la région centre. C'est la région centre qui apporte beaucoup au niveau de l'économie nationale. C'est la zone où on fait les activités de production de poissons. C'est où on fait la riziculture. C'est l'élevage aussi au niveau de Mopti. Et pendant cette période sèche, presque tous les animaux du Mali se rencontrent au niveau de Mopti et même les animaux de pays voisins. Donc c'est une zone stratégique pour le Mali et même pour le monde parce que le delta intérieur du Niger a été classé site Ramsar. Ça, c'est une convention qui a été signée dans une ville de Iran qu'on appelle Ramsar. Et cette convention est dédiée aux zones humides. Donc, tout le delta intérieur du Niger qui commence de Kémasina à Ségou pour se prendre fin au niveau de la région de Tombouctou en passant bien sûr par la région de Mopti où il y a quatre secs qui sont inondés, Djenné, Mopti, Tenenku et Yuaru. Donc, du point de vue vraiment contribution économique, contribution culturelle, tourisme, tout ça, Mopti est quand même une zone, une région stratégique pour le pays. Maintenant, l'impact du changement climatique, il y a 20 ans, il y a 30 ans, le delta intérieur avait une superficie de 41 000 km² comme ça. Mais aujourd'hui, la superficie est estimée à entre 20 000, 17 000, 18 000.
Inondable ou bien?
Inondable. Ça veut dire qu'il y a moins d'eau. Donc, quand il y a moins d'eau, c'est sûr qu'il y aura maintenant des conséquences au niveau du delta intérieur du Niger. Parce que tout le système de production est perturbé. Donc, quand on prend le cas des poissons, parce que avec la zone d'inondation, c'est des zones propices pour la reproduction des poissons qu'on appelle les zones de frayeur. Mais donc, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça joue sur la production des poissons. Maintenant, les autres activités, c'est la même chose du point de vue de la végétation, surtout les ligneux, du point de vue des pâturages. Quand il n'y a pas d'eau, il y a donc diminution ou rétrécissement des pâturages. Et quand on tient compte de la capacité de charge, le nombre d'animaux qu'on met sur un pâturage pour que les animaux puissent se nourrir, il y a des problèmes. Donc, il y a l'effet, il y a le sur-pâturage qui fait que le sol, qui est le support nourricier, a des problèmes de jouer son rôle de fertilité. Donc, Ghana disait tout de suite, il parle de l'ensablement, ça aussi, c'est remarqué au niveau du delta intérieur du Niger. Parce que quand il pleut beaucoup, bien sûr, le courant, ça joue aussi sur un peu le système d'écoulement de l'eau qui fait que le courant peut entraîner du sable, ceci, cela. Mais quand la vitesse d'écoulement est faible, donc il y a des sédimentations qui se passent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau de certains tronçons, le fleuve Niger et son affluent principal, le Bani, connaissent des comblements. Ce qui fait qu'à la longue, si on ne prend pas des mesures, le fleuve peut-être un jour va disparaître, mais quand on dit ça, les gens vont dire non, mais comment le fleuve va disparaître? C'est quelque chose que Dieu a créé, ceci, cela. Mais il y a des exemples à travers le monde où on a vu que des fleuves, des cours d'eau ont disparu. Donc il y a lieu que, en tout cas, nous, techniciens et la population, on essaie de voir comment atténuer l'impact du changement climatique au niveau du fleuve Niger.
D'accord. Alors, ce n'est pas un cours de géologie, mais plutôt un débat sur le réchauffement climatique. Merci à vous, messieurs, pour l'animer. Alors, je me tourne vers Mami Fofana. Vous êtes coordinateur technique du groupe de partenaires techniques et financiers. Vous êtes à l'ambassade de Suède. On sait que l'environnement, c'est un domaine budgétivore pour les partenaires. Aujourd'hui, à combien peut-on estimer l'investissement européen vis-à-vis de, pour atténuer ou bien pour encourager l'adaptation au changement climatique au Mali?
Bon, j'avoue que je ne suis pas à mesure de donner un chiffre précis parce que c'est vrai que nous essayons de faire en sorte qu'il y ait l'harmonisation et que les actions, les différentes interventions financées par les barres de fonds puissent être coordonnées. Mais au même moment, je pense que nous avons un peu de chemin à faire avant que bon, ce soit les mêmes mécanismes de financement. Donc comme il y a au moins une dizaine de partenaires qui sont présents au Mali, nous essayons de faire en sorte que il y ait au moins la forme des informations qui puissent être partagées, qu'il y ait aussi des paniers communs, mais au même moment, il y a quand même les deux méthodes qui restent parallèles, c'est-à-dire que les financements conjoints que nous faisons et les financements individuels par chaque barrière. Cela fait qu'il est difficile de donner un chiffre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que un pays comme la Suède au sein de l'Union européenne, comme la Belgique, comme la délégation même de l'Union européenne, en fait, c'est des agences qui mettent beaucoup d'argent dans l'environnement. Dans tous les cas, même les projets de production ou d'obédience économique devraient inclure une dimension de sensibilité positive à l'environnement. Et au niveau de chacun de ces programmes, généralement, il y a des évaluations environnementales stratégiques qui sont menées avant même le financement. Et au cours de la mise en œuvre aussi, chaque fois qu'il y a des ouvrages qui sont réalisés, il y a des études d'impact environnemental et social qui sont réalisées pour s'assurer d'abord que ces ouvrages ou ces programmes ont moins d'impact négatif sur l'environnement ou quand il y a des impacts sur l'environnement et le social, que ces impacts puissent être réduits à travers des mesures de correction.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Mambi Fofana. Vous êtes le coordinateur technique du groupe de partenaires techniques et financiers en faveur donc de l'environnement et du changement climatique. Alors, je me tourne vers Drissa Gana, coordinateur de Sahel Eco à Sévaré. Alors, concrètement sur le terrain, quel genre d'activité est-ce que vous menez en faveur des populations?
Ok, en fait, merci bien. Par rapport à la lutte contre les effets du changement climatique, et Sahel Eco, qui est une ONG prioritairement d'environnement, met l'accent essentiellement sur la promotion des bonnes pratiques de promotion de l'agroforesterie. Entendons par bonnes pratiques tout ce qui va en faveur de la gestion durable des terres. Il y a tout ce qui est régénération naturelle assistée, tout ce qui est reboisement là où c'est possible, là où les conditions d'eau les permettent, et tout ce qui est action de conservation des eaux et des sols, et tout ce qui est promotion des produits forestiers non ligneux. Donc nous accompagnons les communautés à travers ces actions de bonnes pratiques. Et ça nous amène à aller vers l'amélioration des conditions de vie de la population.
D'accord. Alors, comment est-ce que vos ONG, vos structures parviennent à faire une évaluation de vos actions sur le terrain, M. Guindo?
Par rapport au changement climatique, nous menons des activités de maraîchage. C'est généralement destiné aux associations féminines parce que vous savez, les femmes jouent un grand rôle, tout ce qui est exploitation de bois, tout ce qui est cuisine, parce que le bois est la principale source d'énergie. C'est les femmes généralement qui exploitent et les jeunes, ça ce sont nos cibles. Donc nous mettons des périmètres maraîchers à la disposition des femmes pour produire beaucoup les 12 mois de l'année, ce qui est une innovation, parce que nous faisons des forages équipés de panneaux solaires avec des châteaux d'eau de 5 mètres cubes. Les 12 mois de l'année, les femmes sont au travail. Pendant la campagne de maraîchage, la campagne normale, elles sont sur le périmètre. Et pendant la grande saison, elles sont aussi sur le périmètre parce que nos partenaires techniques qui sont, par exemple, pour le maraîchage, la Direction régionale de l'agriculture, conseillent des spéculations de grande saison. Donc 12 mois sur 12, les femmes sont occupées. Ils produisent, ils transforment.
Donc, si je comprends bien, les activités sont basées essentiellement sur l'adaptation
au changement climatique. Ça, c'est pour en ce qui concerne les femmes. Donc, si avant la femme partait pour le ramassage du bois 2 fois ou 3 fois par semaine, maintenant elle ne peut plus le faire parce qu'elle est occupée et l'occupation aussi lui donne de l'argent. Et avec l'argent, elle peut peut-être chercher d'autres sources alternatives d'énergie. Les jeunes. Nous aussi, nous encadrons les jeunes en matière de reboisement. Et on sait que la végétation joue un grand rôle en matière de pluviométrie. Donc les jeunes aussi, nous mettons des plans à leur disposition pour faire le reboisement. Mais nous faisons aussi ce qu'on appelle la formation pour la fabrication de savon. C'est vrai qu'il y a certains produits qui polluent l'environnement, chimique, tout ça, mais nous faisons attention à tout ça. Nous formons les femmes aussi pour la fabrication de savon. Nous formons les femmes à développer l'aviculture, c'est-à-dire l'élevage de la volaille, pour qu'elles puissent avoir beaucoup d'argent. Il y a aussi la bruiculture, qui est très, très connue au niveau du delta intérieur du Niger. Donc, nous faisons toutes ces formations et des appuis techniques, des appuis en équipement.
Est-ce que vous parvenez à autonomiser ces couches?
Nous sommes à notre deuxième année d'exécution du programme au niveau de Mopti et votre question est pertinente. Nous faisons ce qu'on appelle l'évaluation aussi socio-économique parce que, comme vous l'avez dit, quand on vient pour aider des gens, il faut savoir au départ quelle était la situation de référence. Et quand le projet est venu, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Si c'est oui, à quel niveau? Donc on échange avec les femmes et on fait ce qu'on appelle l'état de référence pour voir si nous ne sommes pas venus perturber leur système. Au lieu de les aider, peut-être qu'on les crée des problèmes. Donc il y a la situation de référence et en fait, pour le moment, tout ce que nous faisons au niveau du delta intérieur du Niger est apprécié par la population et les autorités techniques aussi, les collectivités pensent que nous sommes sur le bon chemin et nous avons des évaluateurs, des yeux comme on dit extérieurs qui viennent voir aussi, qui pensent que vraiment, si au niveau du delta, tout le monde arrive à adopter l'approche PDD-DINE, on espère qu'il y aura moins de pression sur les ressources naturelles que certains pensent inépuisables.
D'accord.
Et par rapport à votre question sur le fond, vous savez, moi, vous avez dit que l'environnement, c'est budgétivore, c'est vrai. C'est vrai que c'est budgétivore. Si on ne fait pas, si on prend pas des précautions, le coût de l'inactivité, c'est comme ça que souvent les gens disent, est plus élevé que ce qu'on considère aujourd'hui comme budgétivore.
Qu'est-ce que vous appelez inactivité?
Le coût de l'inactivité, c'est on voit le danger. Tout le monde dit que l'environnement, les ressources naturelles se dégradent, mais personne ne bouge. Et justement, quand on ne bouge pas, on aggrave la situation. Alors quand on se lève avec des solutions pratiques, simples, on peut un peu atténuer
et pouvoir vivre avec. D'accord. Alors nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission que je rappelle est organisée en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Mali, en prélude donc au grand rendez-vous qui doit se tenir cette année en France sur le réchauffement climatique. Nous nous retrouvons juste après ça.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani débat donc aujourd'hui du changement climatique, un débat initié en partenariat avec la délégation de l'Union européenne. Alors, nous étions sur les impacts. Aujourd'hui, nous allons voir avec nos invités comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour s'adapter aux effets du changement climatique. Les partenaires sont investis dans le domaine et les techniciens sur le terrain à travers les ONG que nous avons ici, Sahel Eco, et le projet donc intégré du delta intérieur du Niger font énormément d'actions pour donc atténuer les effets du changement climatique et permettre aux populations sur le terrain de pouvoir s'adapter donc au changement. Nous allons voir les solutions. Peut-on lutter contre le réchauffement climatique aujourd'hui? Quels sont les moyens de lutte ou d'adaptation du changement climatique, Mambi Fofana?
Merci Monsieur Sidibé. Je pense que il y a beaucoup de solutions. Et les solutions se trouvent au niveau individuel et au niveau collectif. Chacun de nous peut contribuer à la résolution du problème. Parce que chacun de nous contribue aussi à la cause du problème. Et c'est en cela que chacun devrait contribuer à la résolution du problème. Et des actes simples peuvent contribuer à la résolution du problème. Lorsque vous sortez de votre chambre ou de votre bureau, éteindre la lumière contribue à la résolution du problème. Parce que si vous n'éteignez pas la lumière, l'ampoule ne va pas durer. Donc, lorsque vous remplacez l'ampoule, alors que l'ampoule aura été fabriquée par un procédé industriel, alors que ce sont les procédés industriels qui sont à la base des émissions de gaz à effet de serre, c'est que vous allez contribuer dans ce cas à l'aggravation du problème. Mais en éteignant l'ampoule, vous contribuez à la résolution du problème. Au Mali, dans le domaine de l'agriculture, on peut beaucoup faire. Nous pouvons, par exemple, utiliser les cendres. Il y a 95% des boulangeries qui fonctionnent à partir du bois. Et la cendre, c'est juste la potasse, qui est un élément majeur. Le potassium est un élément majeur qui peut être utilisé dans l'agriculture. Le Mali investit des milliards dans l'achat d'engrais potassiques. Les plumes de volaille ont une teneur en azote très élevée. Mais nous savons qu'il y a, au niveau de nos marchés, des lieux d'abattage de la volaille, avec des plumes partout. Mais les plumes peuvent être compostées facilement pour remplacer les engrais azotés chimiques que nous achetons. Les cornes de bœuf peuvent être utilisées. À l'ICRISAP, nous avons, à l'époque, procédé à des analyses de laboratoire qui ont démontré que les cornes de bœuf contiennent 24% d'azote, alors que le sac durée en contient 46%. Qu'est-ce que ça veut dire? Que au moins la corne de bœuf contient la moitié de la teneur en azote de l'urée. Donc notre budget engrais peut beaucoup diminuer, et lorsque nous diminuons les charges de production, en ce moment les profits augmentent. Ça c'est au niveau de l'agriculture. Mais je disais aussi qu'au niveau individuel, nous pouvons tout, beaucoup faire. Mais maintenant, il y a des torches solaires au Mali à prix abordable.
Justement, les énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables. Le biogaz, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, nous pouvons les adopter.
Est-ce que vous investissez dans ce domaine?
Nous investissons dans ce domaine parce que, en fait, quand M. Guindo parle du programme de développement du delta intérieur du Niger, c'est un programme qui est financé par la coopération suédoise. Et au niveau de ce programme, les énergies renouvelables telles que le solaire sont beaucoup utilisées pour l'exode de l'eau, en lieu et place du carburant fossile. Parce que c'est des pompes immergées qui sont actionnées à partir de panneaux solaires. Et si on n'avait pas utilisé ces panneaux solaires, on aurait pu utiliser des moteurs, des générateurs qui fonctionnent à base de gaz carburant fossile, de carburant fossile, tel que en fait soit l'essence ou le gasoil. Donc nos comportements individuels peuvent beaucoup contribuer à la gestion du problème.
D'accord.
Nous pouvons diminuer nos déchets. En fait, au lieu de jeter les déchets partout, nous pouvons les recycler. Bamako est une ville de déchets, mais on peut faire un tri et puis utiliser cela dans l'agriculture. Même les déchets plastiques peuvent être utilisés pour répondre à des besoins humains. Donc, il y a tellement de solutions que nous pouvons promouvoir localement au niveau des systèmes de production et au niveau du comportement individuel. Nous pouvons participer à des actions civiques. Chaque fois que vous entendez parler d'une journée de salubrité, d'une journée de reboisement, vous participez et vous contribuez ainsi à la solution du problème.
D'accord. Merci beaucoup, Mambi Fofana. Je rappelle que vous êtes coordinateur technique du groupe de partenaires techniques et financiers pour l'environnement et le changement climatique. Alors, Drissa Gana, vous êtes coordinateur du bureau Sahel Eco à Sévaré. Est-ce que les populations sont réceptives à l'idée que ça doit changer?
En fait, dans l'introduction, j'avais dit que les changements climatiques aujourd'hui, c'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. Et nous, en tant que ONG qui côtoyons régulièrement les communautés, nous comprenons avec cette population que réellement il y a la volonté de changement. D'abord, ils sont informés sur les effets des changements climatiques à travers la forte communication que le gouvernement a engagée, mais aussi à travers l'accompagnement des ONG qui mènent assez de sensibilisation autour de ces changements climatiques. Alors, je l'ai dit que ce n'est pas une fatalité, ça veut dire qu'on peut lutter contre les changements climatiques en termes d'atténuation et en termes d'adaptation. Et au niveau de Sahel Eco, j'avais tantôt dit que la meilleure solution, c'est de faire les bonnes pratiques agricoles. Et parmi ces pratiques, au niveau de l'ONG Sahel Eco, nous avons privilégié une des techniques qui a fait ses preuves aujourd'hui. Et j'allais parler de la régénération, de la technique de régénération naturelle assistée des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais juste vous dire un scénario. Imaginez un village où on tue systématiquement tous les enfants avant leur premier anniversaire. Au bout de 10-20 ans, quel est le sort de ce village? Malheureusement, nous sommes en train d'assister à ce scénario dans les champs où on peut assimiler les arbres aux enfants. En début d'hivernage, tous les jeunes pousses qui ont grandi au cours de l'année sont systématiquement éliminés, brûlés pour installer les cultures. Et si cette pratique continue, au bout de 10-20 ans, tous les grands sujets vont mourir et le champ sera désert.
Parler des grands arbres.
Voilà. Donc, Sahel Eco a vraiment, au regard de ce constat, à développer la technique de régénération naturelle assistée qui consiste à entretenir les jeunes pousses qui arrivent naturellement, qui sont adaptées aux conditions climatiques parce qu'elles ont germé seules, et il suffit juste de les assister pour les faire grandir. Et ça a vraiment fait ses preuves et ça contribue énormément à l'amélioration du couvert végétal aujourd'hui où certains paysans ont des champs avec des densités d'arbres autour de 200 arbres à l'hectare. Cela veut dire que certains champs sont plus riches en arbres aujourd'hui que les forêts classées du Mali.
D'accord. Merci beaucoup, Drissa Gana. Je rappelle que vous êtes coordinateur de Sahel Eco à Sévaré. Alors, monsieur Bineguindo, vous êtes coordinateur régional donc du projet intégré du Delta intérieur du Niger à Mopti. Vous menez des actions qui permettent d'éduquer les populations à leur insu en installant des projets assez intelligents. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de dire à ces populations que les projets que vous installez sur le terrain relèvent donc de leur survie? Est-ce qu'ils sont les populations sont réceptives à cette idée?
Les populations, je dirais pas que les populations sont réceptives à nos projets, mais c'est que nous, c'est plutôt les populations qui nous envoient des projets. Parce que l'approche a changé. Il y a quelques années, on faisait ce qu'on appelle le top bottom, là. C'était du haut qu'on amenait les projets au niveau des paysans qui étaient presque indifférents. Mais nous, aujourd'hui, c'est à la base. Nous travaillons avec les services techniques, nous travaillons avec les ONG et nous avons mis en place ce qu'on appelle des cadres de concertation. Donc c'est depuis la base, depuis au niveau commun que les projets montent. Les populations savent les difficultés, ou en tout cas leurs besoins.
Donc rien ne leur sont imposés.
Non. Donc c'est pas que les populations sont réceptives, mais c'est les populations même qui initient. Donc ça remonte depuis la commune, le cercle, au niveau région. Nous avons le comité technique régional du programme qui est là. Donc nous analysons et on va voir si c'est en harmonie ou en accord avec les principes du programme. Si c'est acquis, tout de suite, on déclenche tout le processus. Donc nous, en tout cas, les deux ans que nous sommes sur le terrain, il n'y a pas de problème, les choses marchent bien. Et tout ce que nous faisons est vraiment apprécié par les populations. Par rapport à l'adaptation au changement climatique, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif principal, c'est améliorer la résilience. La résilience, c'est quand tout de suite, M. Fofana et Ghana parlaient de l'insuffisance des pluies hautes là. Quand il n'y a pas de pluie, parce qu'aujourd'hui tout est basé sur la pluie, et quand il n'y a pas de pluie, donc il y a tout de suite le système de production qui reçoit un coup. La production ayant échoué, tout de suite il y a un choc au niveau des populations. Donc c'est ce qu'on appelle avoir comment améliorer leur résilience, comment on peut les aider à atténuer ce choc. C'est pourquoi nous faisons, je dis, le maraîchage, nous faisons les activités qui puissent aider les paysans.
D'accord.
Maintenant, par rapport aux effets du changement climatique, la pluie, il y a des études qui ont prouvé qu'il y a bien sûr une relation entre la pluie et le taux de couverture d'un pays par la végétation. Donc nous expliquons ça aux paysans de faire des activités de reboisement. Et à ce titre, le projet aussi appuie. L'an passé, on a fait à peu près 100 hectares d'eucalyptus répartis sur les 4 cercles inondés. Nous avons intervenu aussi au niveau de Gundam, Niafunke, où bien sûr c'est le delta. Donc nous faisons tout ce qui peut entre aider les populations à s'adapter aux effets du changement climatique avec leur participation et leur implication. Parce qu'une chose, c'est d'amener quelque chose, mais l'autre chose, c'est la pérennité ou bien la durabilité de nos interventions. Donc nous faisons tout avec les populations en associant toutes les composantes, services techniques, collectivités, ONG.
D'accord, merci beaucoup. Monsieur Guindo, vous êtes coordinateur régional du projet intégré du Delta intérieur du Niger, ONG basée donc à Mopti. Aujourd'hui, on sait que le changement climatique, les questions du réchauffement climatique relèvent du combat des éléphants. Cette rencontre prévue cette année en France, est-ce qu'on peut avoir avec vous quelques enjeux de ce forum prévu qui aboutira donc à un document qui aura force de loi, imposé donc aux pays industrialisés. Un aperçu avec vous, M. Fofana.
Ok, merci M. Sidibé. Bon, en fait, Paris est un enjeu majeur pour le monde, parce que la réussite de Paris va déterminer aussi l'avenir du monde. Puisque quand on parle de changement climatique, on parle d'un problème mondial qui se manifeste au niveau local, mais qui doit être résolu aussi à l'échelle mondiale en termes de politique. Et à Paris, cette année, il est attendu d'abord que, pour la première fois, que même les pays qui ne sont pas, en fait, émetteurs essentiels de carbone comme le Mali, les pays en voie de développement ou les moins avancés, les paiements, que ces pays puissent amener des contributions chiffrées de leurs engagements en termes de réduction. Et il ne s'agit pas de faire des professions de foi, mais de dire quels sont les niveaux d'émission de gaz dans chacun des secteurs d'activité économique dans le pays, le transport, l'industrie, le commerce, les reconversions agricoles, les déboisements forestiers, tout cela dans chaque secteur, voir quels sont les niveaux d'émissions actuels et quel est le niveau d'engagement de réduction et comment cette réduction sera opérée. Chaque pays, sur une base volontariste, les paiements, devraient amener des contributions. Cela est très important. Parce que c'est vrai que nous avons des responsabilités différenciées dans les causes des changements climatiques. Je vais dire les pays les moins avancés et les pays industrialisés. Mais quand même, nous sommes tous responsables à des degrés différents. Et est-ce qu'il faut, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut attendre
non.
que nous aussi, nous polluions pour que nous soyons considérés comme responsables.
Cette question, nous la laissons donc à l'appréciation des auditeurs, car l'heure est arrivée, la fin de cette émission est toute proche. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Fomoussa Sidibé, Peting Diara était à la mise en onde, Mamadou Ouattara était à la régie vidéo, Ousmane Diadié Touré et Ayouba So étaient à la réalisation. Nous vous disons bonsoir et un très bon moment. À très bientôt, à demain donc pour un autre débat. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Haloud Maoundi.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.